informés tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. À la une de l'actualité de la mi-journée, le président du FASO, chef suprême des armées, a passé sa fête de Pâques hier à Barsalogo et Djibo, deux localités en proie aux attaques armées. Paul-Henri Damiba est allé décliner au FDS sa vision de la lutte contre le terrorisme. On parlera aussi de gastronomie dans ce journal. Clin d'œil sur certains mets traditionnels made in Burkina avec la restauratrice Mam 5. Inondation en Afrique du Sud, le nouveau bilan fait état d'au moins 443 morts. Et l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire n'est pas véritablement une solution dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. C'est ce que pense notre invité du jour, Zakaria Soré, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Interview à suivre en fin d'édition. Le président du FASO était hier dimanche à Barsalogo dans le centre nord et Djibo dans le Sahel pour décliner aux hommes sa vision de la lutte contre le terrorisme, a annoncé la présidence du FASO. Quelle est cette vision? Réponse avec Lamine Traoré.
Cette vision repose sur deux axes selon la présidence du FASO. L'offensive militaire contre les groupes radicaux et la mise en place d'un mécanisme de dialogue pour ceux qui sont dans les dispositions d'esprit de renouer le dialogue avec la nation. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a traduit ses encouragements et ses félicitations pour le travail remarquable abattu quotidiennement par les unités et a aussi invité ses hommes issus de l'armée de terre, de la gendarmerie, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et de la police nationale à faire preuve de cohésion, de solidarité et de discipline. Peut-on lire dans le communiqué publié sur la page Facebook de la présidence du FASO? Le président du FASO était accompagné, selon toujours la présidence du FASO, du commandant des opérations du théâtre national, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et du directeur général de la police nationale. Cette visite du président Damiba intervient quelques jours après celle du premier ministre Albert Ouédraogo à Dori, toujours dans cette même région du Sahel.
Traoré, la veille de Pâques, deux policiers ont été tués et trois autres blessés samedi dans l'explosion de leur véhicule sur une mine à Wanobian, dans la commune de Pisila, province du Sanmatenga, région du centre-nord, a annoncé la division de la communication et des relations publiques de la police. Et à l'occasion de la fête de Pâques célébrée hier, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a adressé un message à la communauté chrétienne sur sa page Facebook. Je souhaite une belle fête pascale à tous les chrétiens de notre pays. J'ai une pensée spéciale à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie ainsi qu'aux déplacés internes, contraints de célébrer cette fête loin de leur famille et de leur domicile, a déclaré Paul-Henri Damiba. À Bobo-Dioulasso, les églises ont été prises d'assaut par les fidèles chrétiens. Diaye Ouédraogo a été dans différents lieux de culte. Suivez son reportage.
Témoins de leur attachement au Christ, les fidèles chrétiens ont massivement occupé les bancs des églises en ce dimanche pascal. Ils ont imploré l'Éternel des cieux afin qu'il mette la paix et la réconciliation dans le cœur de tout un chacun.
Je souhaite que Jésus ressuscité nous amène la paix. Après, on demande l'amour du prochain à tout le monde.
Que la résurrection du Christ appuie tous nos péchés et puis bon, nous apporte beaucoup de bénédictions.
Vraiment, que Dieu fasse descendre sa grâce dans notre pays, le Burkina Faso.
Le chapitre 6 des Deutéronomes et celui 20 de l'Apocalypse sont une illustration parfaite de la vie de Jésus-Christ et son amour pour l'humanité que le pasteur Jacques Porgo met en exergue au cours de son homélie à l'église des Assemblées de Dieu de Koko. Il invite les croyants à s'en approprier.
Nous avons prié pour que la paix revienne au Burkina Faso et que tous les Burkinabés expérimentent les bénédictions que Jésus a apportées en donnant sa vie sur la croix.
À l'église catholique Saint-Vincent de Paul, le message est le même. Là également, une pensée spéciale pour le Burkina uni et apaisé a été au cœur des prières dirigées par l'abbé Lucien Nanema.
Nous pensons particulièrement à tous les déplacés de notre pays, à toutes les personnes qui souffrent, qui ne pourront pas
célébrer la fête de Pâques en ce jour, à toutes les personnes qui vont entendre ce message, que le Christ ressuscité leur apporte la paix du cœur.
À l'église Saint-Vincent de Paul, 26 personnes ont reçu le sacrement du baptême. Ndewo Drago Bobo, Omega Media.
Du côté du Vatican, c'est depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre devant une foule de 100 000 fidèles que le pape a déploré une Pâque de guerre. Nous avons vu trop de sang versé, trop de violence, a-t-il dénoncé. Le pape dit aussi porter dans son cœur les nombreuses victimes ukrainiennes, les millions de réfugiés, les vies brisées et les villes rasées. Il a également lancé un appel à la paix sous les applaudissements qu'une nouvelle aube d'espérance se lève bientôt sur cette terrible nuit de souffrance et de mort, que l'on choisisse la paix, a-t-il conclu. Politique à présent, le gouvernement burkinabé a annoncé la semaine dernière la mise en place de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, mais le timing de cette annonce pose problème selon Zakaria Soré, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, car dit-il, cette annonce est faite au moment où, sur certains aspects, le rapport de force est en faveur des groupes armés.
Vous ne pouvez pas dialoguer d'égal à égal avec quelqu'un qui vous domine en termes de rapport de force. Est-ce que, à cette situation, les populations pourront obtenir quelque chose de ces groupes armés? Parce que les rapports de force n'est pas en leur faveur. Est-ce que laisser simplement des gens, en leur demandant de définir les champs de négociation possibles, les champs de non-négociation, est-ce que ça pourra marcher? Donc on reste toujours avec ces interrogations. Soit l'État s'assume réellement en décidant d'accompagner ces questions de dialogue-là avec une politique de réinsertion de ceux qui ont pris les armes. Ça permet donc de suivre et ça permet de sentir qu'on a un État, qu'on a un acteur fort qui accompagne. Sinon, les communautés aujourd'hui, dans beaucoup de localités, sont prêtes à renoncer à un certain nombre de choses parce qu'elles veulent vivre en paix, continuer à exercer les activités. Donc, laisser les communautés directement face aux groupes armés, c'est signer donc le premier pas de la démolition de la force publique, parce qu'il y a des accords qui seront pris qui ne vont pas avec les principes d'un État républicain.
Et par rapport à l'affaire Béguédo, cette commune située dans le centre-est où plusieurs bars, maquis et auberges ont été détruits et incendiés par un groupe de personnes se réclamant musulmans, Zakaria Souri pense qu'il faut que l'État arrive à contrôler les discours religieux.
Le cas de Béguédo pose des problèmes. Le premier problème, c'est comment l'État contrôle les religions. Parce que nous, au Burkina, ce qu'on a réussi à instituer, c'est de dire que la religion est une question sensible et par conséquent, l'État doit se tenir loin de la religion. Pour moi, la religion est un problème au même titre que les autres. Autant l'État sait lutter contre l'excision, autant l'État doit aussi pouvoir parler de religion. C'est à l'État de définir le cadre qui permettent aux religions d'exister. C'est à l'État également d'arriver à une sorte de contrôle du discours religieux. Parce que le véritable problème, c'est ce qui on construit à partir du discours. Donc il faut que l'État arrive à contrôler le discours religieux. Il faut que l'État arrive à former les leaders religieux à la question de la laïcité et à la question de la République. Tant qu'on ne va pas réussir à faire ces deux choses-là, on aura toujours donc des discours qui vont aller à l'encontre des principes de l'État. Donc ça, c'est un véritable problème qu'il faut résoudre.
L'enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo, Zakaria Soré, est l'invité de la rédaction. Avec lui, on parlera en fin d'édition de l'état d'urgence. Direction la cuisine à présent, à l'occasion de la Journée internationale de la gastronomie célébrée le 13 avril dernier, Omega a fait un zoom sur les repas cuisinés par Mariam Sankara, plus connue sous le pseudo Mam 5. Elle est restauratrice et sa spécialité, les mets traditionnels, allant à la découverte de ses plats avec Mumuni Tamboura et Koku Mienso.
Il y a le goré, il y a le kumbando, il y a zamne, il y a gnon, il y a haricot couscous,
Pour ne citer que cela, ces mets locaux constituent la marque déposée de cette dame affectueusement appelée Mam Sank. Elle a su garder les valeurs des plats traditionnels africains.
Je me suis focalisée plus sur mets locaux parce que si on peut voir restaurant typiquement ivoirien ou restaurant sénégalais, pourquoi pas restaurant burkinabé? Nos mamans le font, il y a des sœurs aussi qui le font. Moi aussi je vais le faire, mais j'ai plus voulu aller au-delà des attentes des Burkinabés, c'est-à-dire avoir un cadre idéal pour tout le monde, pour que le client se sente à l'aise.
Des mets locaux, à travers un service digitalisé, Mam Sank a su conquérir sa clientèle. Des commandes sur place, des livraisons à domicile ou des commandes par Internet, la restauratrice Mam Sank fait du client un roi.
Il n'y a pas de particularité en tant que telle. Si on peut le dire, Mam Sank s'est plus fait voir sur les réseaux sociaux où je publie mes plats, où je fais mes petites blagues, où je dis du kumbando digital. Quand je dis kumbando digital, chacun veut goûter. Kumbando digital, c'est quoi? Voilà, donc chacun veut goûter et ça attire un certain nombre de gens. Et quand ils viennent, tu es satisfait, du coup, tu recommandes à d'autres personnes.
La cuisine va de pair avec l'hygiène, ce qui fait du restaurant Mam Sank la référence à en croire la Sina Tiendrubego, fan des mets locaux.
J'aime manger les mets locaux. Donc, c'est sur Mam Sank que je préfère aussi venir ici.
Les commandes sont fortes et il faut nécessairement trouver un moyen pour satisfaire sa clientèle.
Il y a les livraisons qui sont là. Quand il y a des grandes commandes, par exemple les cérémonies ou les fêtes, du coup, on ne peut pas transporter à moto. Donc, je fais ce taxi-moto pour faciliter la tâche.
Bien qu'il y ait une hausse des prix des denrées alimentaires, Mam Sank a su maintenir sa clientèle.
Chez Mam Sank, tout le monde peut venir, hein. Parce que chez nous, ce n'est pas que c'est des plats qui vont à 5 000 ou quoi, non. Nos plats, 500 francs minimum, 2 000, tu vas manger 2 000 avec boisson même ajoutée. Donc, n'hésitez pas.
Du restaurant au maraîchage, Mam Sank veut offrir à ses clients des repas faits à base de produits bio. Elle emploie 10 personnes et collabore avec 4 livreurs.
Omega Sport. Avant le sport, l'actualité internationale, le bilan des inondations en Afrique du Sud s'est alourdi à 443 morts. La plupart des victimes ont été enregistrées dans la région de Durban, ville portuaire de 3,5 millions d'habitants, dans le KwaZulu-Natal, ouverte sur l'océan Indien. Outre les 443 morts, les inondations en Afrique du Sud ont entraîné de vastes destructions. Près de 4000 maisons ont été détruites, plus de 13500 endommagées. Observant au cours répit dans la catastrophe, environ 200 chrétiens se sont réunis dimanche pour célébrer Pâques dans l'église d'Inada, à quelques dizaines de kilomètres du centre de Durban. Le gouvernement a annoncé une aide d'urgence immédiate de 68 millions de dollars. 54e jour de guerre en Ukraine, au moins 7 personnes ont été tuées à Lviv dans des frappes de missiles selon les autorités de cette grande ville de l'ouest du pays, d'ordinaire relativement épargnée par les combats depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Par ailleurs, dans son dernier message vidéo, le président ukrainien a accusé Moscou de vouloir détruire tout le Donbass, à commencer par Mariupol, qui résiste toujours aux assauts russes. Les forces ukrainiennes qui défendent ce port stratégique de la mer d'Azov ont ignoré ce dimanche l'ultimatum de la Russie qui leur avait demandé de déposer les armes. Et puis Covid-19, la Chine annonce 3 morts à Shanghai. Les autorités chinoises ont annoncé ce lundi que 3 personnes atteintes du Covid-19 sont mortes dans la capitale économique. Une première depuis la mise en place d'un confinement très strict fin mars. Le géant asiatique qui suit une stratégie du zéro Covid n'a officiellement enregistré à cette date 4641 morts liés au Covid-19, découvert initialement sur son sol à la fin de 2019. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la mairie de Shanghai a précisé que les 3 morts étaient ceux de personnes âgées souffrant de maladies sous-jacentes. Et place au sport à présent, on parle essentiellement de foot. Abdoulkader Konaté nous fait le point de la 25e journée du championnat national de première division.
L'AS Onabel se relance en dominant le leader Lassoa Yenenga 1-0, qui conserve tout de même son fauteuil de leader. Le Rai Club du Kadiogo, désormais deuxième après son succès 2-0 sur le Salitas FC. Salitas FC, l'antenne rouge, a 4 points de retard sur le RCB et l'ASFB. L'étoile filante de Ouagadougou s'est inclinée 0-1 face à l'AS Police. L'ASEC de Kudougou s'est inclinée également 1-0 face à l'ASFB. Le Rai Club du Kadiogo a battu le Salitas 2-0. Lassoa Yenenga s'est incliné 0-1 face à l'AS Onabel. Majestic SC a pris le dessus sur Vitesse FC 2-0. Le RCB a gagné 2-1 face au Royal FC. L'AS Douane et l'AS Kuritenga se sont séparés dos à dos sur le score de 1-0. Kiko FC a perdu 1-2 face à l'USFA. Au classement, Lassoa Yenenga vient premier avec 41 points, suivi du Rai Club du Kadiogo, 40 points, deuxième. Troisième, l'étoile filante de Ouagadougou avec 39 points. Quatrième, l'ASEC de Kudougou, 38 points. Cinquième, Majestic SC, 38 points, plus 2. En bas de tableau, à la 14e place, l'ASFB, 29 points. 15e, le Racing Club de Bobo avec 29 points. Et enfin, Salitas, bon dernier, avec 25 points. Le meilleur buteur de ce championnat demeure Roderick Siekam avec 12 réalisations.
L'invité de la rédaction.
L'invité du jour est Zakaria Soré, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. Avec lui, on parle de lutte contre le terrorisme. Selon Zakaria Soré, l'état d'urgence n'est pas véritablement une solution dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. Il répond aux questions de Denis Zungrana.
Bonjour docteur Soré.
Bonjour monsieur Zungrana.
Nous allons commencer avec la question donc de l'état d'urgence qui est annoncé sur l'ensemble du territoire national. Comment est-ce que vous, docteur, vous avez accueilli cette nouvelle?
Pour moi, c'est avec un double sentiment, sinon une certaine peur de la question des libertés individuelles et collectives. Parce que quand on rentre dans cette sorte d'exception, quand on rentre dans cette sorte de parenthèse qu'on met sur la marche normale d'un État pour essayer de trouver une solution à ce qui paraît donc urgent, il y a forcément que ça coûte en termes de liberté individuelle et collective. Parce que quand on regarde la situation d'état d'urgence, quand on regarde son application, ça veut dire que les citoyens seront amenés à perdre un peu de certains droits, à perdre un peu de certaines possibilités pour pouvoir donner le champ libre donc à l'autorité de pouvoir agir pour rétablir donc ce qui peut être considéré donc comme un péril en matière de sécurité. Donc ça c'est mon premier sentiment, une certaine peur donc de la répercussion sur les libertés individuelles et collectives. Le deuxième sentiment c'est au niveau donc de sa faisabilité, comment ça va s'appliquer étant donné que aujourd'hui de nombreux espaces géographiques du Burkina, on ne sent pas la présence de l'État, on ne sent pas la présence de l'autorité. Donc je me demande aussi comment on appliquera donc l'état d'urgence sur les territoires sur lesquels l'État n'a plus donc d'autorité.
Contrôle. Vous faites bien de le dire parce que justement l'état d'urgence existe dans certaines localités. Alors on se demande donc qu'est-ce qui a pu bien motiver l'État donc à la telle mesure si déjà dans certaines localités il y a du mal à pouvoir agir, prendre des mesures qu'on n'arrive pas à faire respecter.
Non, c'est déjà donner l'impression aux citoyens qu'on se bat, donner l'impression aux citoyens que quelque chose est fait. On tente donc de rassurer en disant que l'État a encore la main, l'État a encore la possibilité donc de faire quelque chose. Donc si le gouvernement annonce ouvertement que il sera instauré l'état d'urgence, dit aux citoyens, bon, on n'a pas totalement lâché, on continue de travailler et probablement donc on va trouver la solution.
Justement là-dessus, vouloir donner, on peut dire, l'impression que voilà, l'État contrôle, l'État gère, est-ce que finalement ce n'est pas une sorte de honte par la suite si on voit que non, il y a difficulté à pouvoir faire appliquer, à pouvoir faire respecter notamment les différentes mesures qui rentrent dans le cadre de l'état d'urgence?
Ça va être un peu difficile justement parce qu'on ne contrôle pas beaucoup de territoires. Donc on décide pour décider. Alors que ce qui devrait faire une décision, c'est non seulement le fait de dire que je l'ai fait, mais surtout être en mesure de pouvoir le faire, mais ici, on n'est pas sûr qu'on va pouvoir le faire. L'autre côté aussi, c'est par rapport à ma peur de voir un peu les libertés restreintes, c'est au niveau donc des grands centres urbains, où il y a de l'action de soutien au nouveau pouvoir, tout comme il y a de l'action de contestation du nouveau pouvoir également. Et dans son discours à la Nation dernièrement, le président disait qu'il allait essayer de voir s'il n'y avait pas la possibilité de renoncer à un certain nombre de manifestations politiques. Peut-être que l'état d'urgence aussi vise à faire taire certains, parce que dans l'état d'urgence, il est annoncé que en fonction du jugement donc de l'autorité, on peut dissoudre donc certaines associations, certaines structures, on peut interdire donc certains rassemblements, certaines réunions. Vous l'avez suivi, on a vu le ministre en charge donc de l'administration du territoire et de la sécurité qui se plaignait donc d'un certain nombre de messages qui circulaient, qui étaient véhiculés. Peut-être que, en généralisant donc l'état d'urgence, ce qui veut dire que désormais ça peut s'étendre à Bobo, à Ouaga, peut-être qu'on se donne aussi la possibilité de dire à certaines structures, donc la marche ne plaît pas de se taire. Peut-être qu'on se donne aussi la possibilité de dire à certains, c'est pas le moment donc de manifester, c'est pas le moment de critiquer.
Oui, mais dans ça, les grands centres urbains, vous l'avez dit, hein, souvent, est-ce que là, la pilule va passer? On l'a vu avec le régime Kaboré, lorsque la connexion a été, en guillemets, prise en otage, la connexion au niveau des téléphones portables.
Oui, probablement, ça va être contesté. Déjà même, il y a eu une réaction par rapport au discours du président qui annonçait donc l'envie de suspendre donc certaines manifestations à caractère politique qui pourrait donc jouer sur la conduite de l'action. De façon générale, quand vous suivez les citoyens, beaucoup sont prêts à renoncer à un certain nombre de droits quand la question de sécurité est mise en avant. Mais vous trouverez des gens aussi qui justifieront donc ces mesures-là. Donc on va se retrouver donc dans cette sorte de dichotomie où il y a des gens qui applaudissent parce qu'ils pensent qu'il faut restreindre les libertés pour pouvoir avoir la sécurité, et il y a des gens qui seront toujours là et qui diront la lutte contre l'insécurité ne suppose pas donc une restriction des libertés individuelles et collectives. Et la réalité, c'est que quand on regarde aussi certains espaces, quand on se réfère à certains états, ce n'est pas sûr que l'état d'urgence soit véritablement une solution dans la lutte contre l'insécurité. Parce que toute la puissance que ça donne aux acteurs de la sécurité d'agir en ne tenant pas compte d'un certain nombre de droits des citoyens amène donc certaines personnes à se considérer comme victimes. Et ça fait monter souvent la contestation vis-à-vis donc de l'État et de ses pratiques. Donc je ne trouve pas véritablement que l'état d'urgence soit la véritable solution. On peut lutter efficacement en permettant aux citoyens d'avoir un certain nombre de droits.
Merci à vous donc, Dr Zakaria Assouré.
À l'instant, notre invité Zakaria Assouré, enseignant-chercheur à l'université Joseph Kizerbo. C'est tout pour ce journal réalisé par Fidel Compaoré. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.
Ouaga 104.7 Bobo. Radio Omega, la vie est belle.